Le retour de Radio X.
Que je qualifierais de gnochon.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Je vais même parler de quasi-délé.
Radio X.
Bon, le sujet, il va être très simple, mais quand t'as ça dans ta maison, c'est pas simple. Ça peut virer en cauchemar. Les fourmis, si vous avez vu l'actualité la semaine dernière, ça continue, puis je pensais que c'était juste dans la région de Québec. Non, c'est aussi à Montréal, beaucoup au Saguenay aussi. Les fameuses fourmis, les charpentières, mais il y a d'autres races aussi. C'est pas le bon terme, race, là, des espèces, on va jaser. Avec M. Maxime et M. Nicolas d'Éradique Extermination en studio, nos pros.
Yes, sir.
Salut, DH, comment ça va?
C'est-tu juste dans la région de Québec, où ça a commencé ici, puis là, ça s'est rendu au Saguenay, c'est rendu dans la région de Montréal, ou c'est ça à peu près partout au Québec?
Je dirais que c'est ça pas mal partout au Québec. Hein. Fait qu'on a eu un printemps qui s'est tiré longtemps, puis ça a fondu tout d'un coup. Fait que ça a créé beaucoup d'humidité. Puis ça, c'est très favorable là, pour la multiplication des fourmis, en fait.
On nous parlait du gel, comme quoi ça n'a pas gelé peut-être assez. Peut-être que c'est arrivé plus drastiquement. Ça peut-tu avoir un lien avec ça aussi, du fait que l'hiver s'installe trop rapidement puis la période de gel, dégel, c'est pas fait assez vite là, dans le coin du mois de novembre.
Oui, effectivement. Mais en fait, c'est tout le temps relié là, à l'humidité, aux conditions météorologiques qui pourraient causer plus d'humidité. Tu sais, les fourmis, surtout les charpentières, ils se nourrissent de tout ce qui est bois, nécessairement non sain. Maintenant, avant, on disait bois. Maintenant, il y a beaucoup d'autres matériaux là, dans lesquels ils vont pouvoir s'installer. Mais de base, là, quand on parlait de charpentière, c'est une structure de bois. Puis là, le printemps, puis même, c'est vrai que l'automne, là, ça a créé des milieux humides. Fait qu'il y a eu beaucoup de multiplication puis beaucoup d'installation de nouvelles colonies là, dans nos maisons.
C'est-tu la pire espèce qu'on dit, les espèces de fourmis, là, parce que t'as la noire, c'est-tu la même charpentière puis la noire, c'est-tu la même affaire, ça, ou c'est différent?
Bien, au Québec, on a 5 espèces de fourmis charpentières différentes. Puis dans le monde, on dénombre là, beaucoup plus que 5, là, voire des centaines d'espèces.
Mais c'est-tu la pire qu'on veut avoir dans sa maison, ça, la charpentière?
Oui, c'est elle qu'on veut éviter à tout prix d'avoir, en fait. Là. C'est vraiment la seule fourmi au Québec qui va faire des dommages à nos structures.
Puis tu parlais de autre que le bois, maintenant, ça s'attaque à quoi? Parce qu'on en a parlé un petit peu l'autre fois en onde, mais les auditeurs qui ont manqué.
Il y a beaucoup de maisons maintenant là, qui vont être isolées à l'urétane. L'urétane, c'est un matériau là, qu'ils vont adorer aller creuser leur galerie là-dedans. On en voit aussi souvent, on en découvre là, dans des sous-sols, des sols qui sont isolés avec des panneaux de styromousse. Fait qu'on trouve la scie de styromousse.
Donc, c'est fun d'aller là, c'est ça?
Tout ce qui se gruge, en fait.
Parce que les panneaux d'isophore, ils peuvent aller se promener là-dedans.
Exactement. Ils creusent leur galerie là-dedans, puis s'installent là-dedans. Tout ce qui est grugeable, qui pourrait avoir un petit peu d'humidité, eux autres.
C'est une reine qui s'installe là, puis elle pond des œufs, là. Puis c'est une machine, là. Puis elle peut faire ça pendant 20 ans, si je me trompe-tu?
Ça dépend des espèces, là, mais la fourmi charpentière, là, la reine va vivre de 15 à 17 ans. Puis effectivement, elle se fait féconder une seule fois, là, puis elle va pondre sans arrêt, là.
OK. Une fois.
Oui.
Puis elle va pondre pendant 17 ans.
Exactement.
Combien d'œufs par jour?
15 à 17 ans. Ça dépend du cycle. C'est jamais pareil. En fait, plus qu'on s'approche du solstice, en fait, plus qu'elle va pondre. Là. Mais c'est jamais un nombre précis à tous les jours. Là.
Y a-tu plusieurs reines dans un nid?
Une seule reine dans un nid.
OK. Et si on arrive à la tuer, la colonie va se disperser?
La colonie devient totalement désorganisée, puis elle va finir par mourir.
Exactement.
OK, ils peuvent pas changer de colonie, mettons. La reine est morte, on s'en va en face.
Non, exactement. Okay. Ils vont comme. Si on peut aller chercher la nourriture, ils vont être désorganisés. Fait que vous manquez de nourriture, manquez d'eau au nid. Les fourmis vont tout simplement finir par mourir.
OK.
Y a-tu des places dans la maison qui aiment bien? Là? Je sais pas, là, les gouttières, quelque part, les bord des fenêtres. Parce que je voyais des images, des vidéos, puis ça varie les places.
Je dirais que la place où on en retrouve le plus, puis tu sais, c'est hypothétique parce qu'on en trouve vraiment à plein d'endroits, là, mais où est-ce que c'est le plus commun? J'aurais tendance à dire que c'est les dessous de porte-patio. Fait que des fois, on a un patio qui a une pente qui est un petit peu inversée, on le voit pas à l'œil. Quand il mouille, il y a tout le temps un petit peu d'eau, un ruissellement qui retourne vers la maison. Alors, le dessous de porte de patio va boire un peu d'eau. La structure va devenir de plus en plus humide. Les fourmis vont avoir tendance à aller s'installer dans ces endroits-là. Les tours de fenêtres, les tours de porte, tous les cadrages, c'est des endroits qui sont les plus problématiques.
On en voit quelques-uns des fois dans les charpentes de toit aussi, là, à cause des toitures inefficaces, que l'eau coule. Ça peut. C'est rare qu'on va voir ça dans un mur mitoyen en plein milieu du bâtiment. Là.
Peut-tu causer un genre de choc si, mettons, tu fais un changement de fenêtre, changement de toiture ou peu importe? Est-ce quelque chose qui peut se passer? Parce que moi, je connais des gens qui ont changé leur porte-patio, puis après ça, la charpentière est rentrée.
Ben, moi, je dirais qu'à quasiment j'allais te dire à tous les jours parce que c'est arrivé encore aujourd'hui, mais au moins 3-4 fois par semaine, on a un appel d'une compagnie de construction qui est en train de changer des portes ou changer des fenêtres, puis ils tombent directement sur un nid. Là. Puis là, ils voient, là, ça grouille de partout. Là, les fourmis, souvent, ils s'en vont chercher les œufs. Et tu les vois toutes se sauver à la course avec les œufs. Puis souvent, le temps qu'on arrive, des fois, on est là dans une heure, en dedans de deux heures, puis le nid est déjà vide. Ils ont déjà fait un déplacement de nid complet. Ouais, okay.
C'est minuscule, on va se dire, c'est une petite affaire, là, mais c'est très intelligent, une fourmi, pareil, là. En tout cas, la structure, tout le... Parlez-moi-en de ça, là, comment ça fonctionne.
Il
y a-tu différents rôles dans la colonie?
Oui, en fait, c'est ça. Il y a tout à la reine. La reine qui dirige vraiment tout, qui ordonne toute la structure de la colonie, en fait. Tu as des ouvrières qui vont vraiment être concentrées à aller chercher de la nourriture. Tu as des ouvrières qui sont concentrées à protéger les larves, à protéger les œufs. Tu as des ouvrières qui vont aller chercher des sources d'eau. Fait que c'est vraiment chaque fourmi a son rôle. Puis également, là, tu sais, la reine, pardon, elle va toujours préférer certains œufs qu'eux vont devenir des reines. Fait qu'à un moment donné, quand ils vont éclore, c'est là qu'on voit là, les fameuses fourmis ailées. Là. Les fourmis ailées, en fait, là, c'est tout le temps un mâle puis une femelle. Là, les ailes vont leur pousser. Ils vont s'accoupler lors du vol nuptial, qu'on appelle. Fait que c'est un accouplement qui se fait dans les airs. Par la suite, les deux vont perdre leurs ailes. En fait, le mâle meurt. Le mâle, après l'accouplement, meurt. Puis la femelle va s'arracher les ailes puis va devenir une nouvelle reine. Il va aller à quelque part. Elle se dépose à quelque part. Elle se trouve une place pour créer une nouvelle colonie.
Puis là, elle va se mettre à pondre. Puis sa famille a grossi.
Exactement. Il y a toujours un nid principal et plusieurs nids satellites là, dans une colonie. Puis on dit, là, c'est pas des pieds précis, mais environ 500 pieds autour du nid principal, il y a un réseau de nids satellites.
500 pieds?
Effectivement.
Puis normalement, on parle d'à peu près une vingtaine de nids satellites qui vont se créer autour de la colonie du nid principal.
Qu'est-ce qu'un nid satellite?
Un nid satellite, ça va vraiment être la même colonie, en fait, qui vont faire des routes biologiques à travers tous les nids. Les nids satellites, c'est plus souvent ça qu'autrement qu'on retrouve dans les maisons. Fait que ça va être des nids qui, chaque nid, vont avoir leur utilité. Puis la colonie principale, souvent, on la retrouve dans beaucoup, beaucoup d'humidité. Une souche dans le sol, dans la forêt ou des choses comme ça, ça va vraiment être la plus grosse colonie. Puis par la suite, entre eux, ils vont tous communiquer via des routes biologiques.
C'est quoi les proies des qui veut? Y a-tu des bébêtes qui aiment ça, des fourmis? Je sais qu'on va arriver à vos produits, là, mais avant ça... Là...
Oui, je dirais que des bébêtes... par exemple, ça nous arrive qu'on arrive sur des cas où des maisons de bois faites en Maybeck, par exemple. Puis là, on voit plein de trous dans la maison. Là, la personne se demande c'est quoi. J'entends gratter, j'entends picosser les pics-bois. Fait que les pics-bois vont bien aimer ça. Ça arrive que les pics-bois passent bord en bord du Maybeck pour aller manger des fourmis de l'autre côté. Là.
C'est spécial, pareil.
Certaines guêpes aussi, je pense, qui sont quand même attirées par les fourmis.
Ça, les gars, vous l'avez appris au fur et à mesure de l'expérience de la compagnie ou vous aviez déjà une base là, à savoir? C'est pas tout le monde qui sait comment ça comporte les fourmis, la reine et tout ça.
Je dirais que c'est beaucoup d'études. Quand on arrive dans des nouveaux cas, on apprend des nouvelles choses. Puis plus qu'on évolue dans notre métier, plus qu'on en apprend. Je dirais j'en apprends encore à tous les jours. Là.
Est-ce que je suis dans le champ si je me dis, bah là, je suis un auditeur, je vous écoute. Bon, les gars, attention. Moi, je vais aller au Canadian Tire, on va m'acheter une canette. Puis là, j'ai un nid dans mon gazon, puis je pense que c'est des charpentières, m'a saupoudré ça, puis ils vont tous disparaître. Ils disparaissent sur le dessus, mais ils s'en vont ailleurs, sur votre terrain, c'est fort probable. Ça se peut-tu, ça?
Effectivement. Surtout, en fait, les produits de quincaillerie, dépendant du type de fourmis, certaines fourmis, que ça va vraiment avoir un bel effet. Par exemple, qu'on a des petites fourmis de sable à l'intérieur de la maison, on prend une canette de Raid, les fourmis de sable, en fait, vont être repoussées. Fait qu'on va pas tuer la colonie, mais on va vraiment faire une barrière invisible qui fait en sorte qu'ils ne voudront plus rentrer dans le bâtiment. Quand on tombe sur de la fourmi charpentière, on recommande jamais les petits appâts, les canettes de quincaillerie. La raison est simple, c'est qu'aussitôt qu'ils se sentent attaqués, les fourmis charpentières, ils vont faire des déplacements de nid. Puis à ce moment-là, quand ils font un déplacement de nid, égal des nouveaux dommages aux structures. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut éviter là, au niveau des fourmis charpentières.
Quand vous allez arriver avec vos produits, comment ça va se passer? Monsieur tout le monde, ils nous écoutent en ce moment. Ils disent, bon, les gars vont arriver, ils ont un masque, là, ils vont saupoudrer ça. Là. Ça va-tu prendre 3-4 jours avant puis on ne voit plus de fourmis ou c'est spontané? Bang!
C'est sûr que c'est pas un coup de baguette magique. Hein? Certains clients aimeraient bien ça qu'on reparte avec toutes les fourmis dans notre poche, là, mais c'est pas de même, ça se passe. Effectivement, c'est pour ça que tous nos services sont garantis, viennent avec des suivis rigoureux. Mais normalement, ce qu'on va faire, là, c'est tout le temps qu'un technicien va se déplacer. Parce que le monde nous appelle, j'ai une grosse fourmi noire chez nous. Grosse fourmi noire ne veut pas nécessairement dire charpentière. Fait que ça va être important en premier lieu d'identifier la fourmi. Il n'y a pas une fourmi qui réagit pareil à certains insecticides. Fait que c'est important de connaître la fourmi pour choisir le bon traitement. par la suite, là, je vous dirais que fourmi charpentière, ça peut prendre quelques traitements à l'intérieur avant de voir vraiment la grosse effet, de s'assurer de pouvoir crier victoire qu'on a éliminé la colonie. Ça va être de faire des traitements extérieurs pour empêcher toutes les nouvelles routes biologiques de se rendre là, à la maison. Mais la première étape, c'est l'identification, inspection. Là. C'est avec ça qu'on fait le plan de match idéal pour chaque situation.
Là. Puis depuis que vous travaillez dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des nouvelles espèces de fourmis qui apparaissent que vous avez jamais vues? Puis est-ce des trucs qu'on voit des fois année après année ou c'est souvent la même affaire?
Il y a des fourmis, il y a certaines espèces de fourmis qu'on va faire qui sont beaucoup plus rares. Par exemple, des fourmis acrobates ou des fourmis odorantes. C'est des fourmis qui sont beaucoup plus rares. Il n'y a pas vraiment de nouvelles espèces. Je sais qu'à la frontière, il y a de plus en plus de cas de termites, qui est une espèce qu'on n'a pas ici au Québec. Là. Mettons, par exemple, à Québec, c'est pas une espèce qui a été vue encore. Puis c'est une bonne chose, là, parce que justement, contrairement à la fourmi charpentière, la termite, elle ne fait pas creuser des galeries. La termite, elle mange le bois, elle se nourrit du bois.
Ta structure peut s'effondrer en pas long.
Là. Exactement. La termite est beaucoup plus vorace au niveau de ta structure, tandis que la fourmi charpentière va rien que creuser des galeries et va déposer le bois. C'est ce qui fait qu'on retrouve de la sciure des fois. Là.
Allez, les gars, on fait une pause et au retour, on ira. Les auditeurs, si vous avez des questions pour nos experts, Maxime et Nicolas, 418-670-9098. Allez-y par le texto, là, 418-670-9098. Ça peut être où les fourmis, ça peut être bien autre chose, des mille pattes.
Ouais, avec les déménagements qui s'en viennent, ouais. Là, les punaises de lit, les blattes, tout ça, là, on peut donner quelques petits conseils pour.
Les petits rongeurs fatigants, ça. Là,
ouais,
là.
Les raccoons aussi, il y en a en masse.
Donc, vous faites les raccoons aussi?
Non, nous, on ne fait pas de capture, là, on va vraiment se spécialiser dans l'extermination.
Okay. On posera les questions au retour, les auditeurs. Sautez sur le texto 418-670-9098.
Le retour de Radio X.
Petite pause.
Okay.
On revient dans pas long.
Radio X.